l'Ukraine, à l'OTAN. Finalement, qu'est-ce qui a été obtenu par Zelensky?
Alors, il a reçu ses plans d'engagement pour la sécurité de l'Ukraine à long terme. Cela veut dire que tous les pays qui ont signé cet accord, et c'était au début les pays du G7, donc quelques-uns des pays les plus importants et les plus riches du monde, qui vont signer des accords bilatéraux avec l'Ukraine. Donc, ce sont eux, entre eux, qui vont décider quel type d'armes vont être fournies dans l'avenir pour l'Ukraine. C'est un plan pour qu'il n'y ait plus d'invasion comme celle de la Russie, qui, bien sûr, a commencé il y a plus de 500 jours maintenant. Zelensky, le président de l'Ukraine, a aussi reçu un raccourcissement du processus d'adhésion. Il lui reste seulement un pas à faire, alors que normalement il y en a deux. C'est un résultat assez positif pour Zelensky, mais il faut que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie se termine pour qu'il y ait cette possibilité d'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine. Et la question reste bien sûr ouverte. Comment cette guerre peut-elle se terminer? C'est la Russie qui décidera. C'est le point de vue de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Et selon Zelensky, le président ukrainien, eh bien, l'Ukraine veut libérer tout son territoire, tous les villages, avant qu'il n'y ait une paix entre l'Ukraine et la Russie. Donc il paraît que ce sera un plan plutôt à long terme.
Et la réunion de l'Alliance a pris fin hier. Le président américain Joe Biden, lui, poursuit sa tournée européenne. Il est aujourd'hui en Finlande, la Finlande qui a rejoint l'Alliance en avril dernier.
Oui, il est à Helsinki en ce moment pour saluer l'adhésion de la Finlande comme 31e membre de l'OTAN. C'est un succès pour les États-Unis, c'est aussi un succès pour l'OTAN, selon les leaders de l'alliance militaire. Le fait que depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février de l'année 2022, il y a déjà un nouveau membre, le 31e, la Finlande, bientôt, normalement, un 32e membre aussi, ce serait la Suède, après les obstacles qui ont été mis côté, en fin de compte, par la Turquie. Ce sera normalement dans les prochains mois que la Suède deviendra le 32e nouveau membre de l'OTAN. Et l'Ukraine, bien sûr, elle veut devenir le 33e État membre de l'OTAN. Et il y a beaucoup d'Ukrainiens, y compris des membres du gouvernement, qui pensent que l'Ukraine, après ses combats de plus de 500 jours contre les Russes, mérite de devenir membre de l'OTAN. Selon les responsables de l'alliance militaire, ce sommet a déjà été un succès parce qu'il y a déjà un nouveau membre de l'OTAN et bientôt, normalement, deux nouveaux membres de l'OTAN.
Et vous le disiez, la Turquie qui a donné son accord de principe lundi dernier pour l'adhésion de la Suède. Merci Philippe. À présent, nos invités. Patrick Chevalereau, bonjour, vice-amiral et vice-président de l'Institut Open Diplomacy. Et nous avons également Jean-François Seznec, économiste, analyste politique à l'Atlantic Council. Bienvenue, monsieur. On commence par vous, monsieur Chevalereau. L'Ukraine entrera dans l'OTAN dès que les conditions seront réunies. C'est la déclaration de Jens Stoltenberg. Et la fin de la guerre est bien l'une de ces conditions.
Oui, alors, et quand on regarde précisément la déclaration qui a été approuvée par l'ensemble des États membres, on voit bien que ces conditions ne sont pas précisées. Donc, on a un flou qui est maintenu, qui est entretenu. Bien évidemment, traditionnel.
La liaison n'est pas très très bonne avec vous, M. Chevalereau. On a vraiment du mal à entendre ce que vous disiez. Je pense qu'on va réessayer de rétablir la connexion avec vous. En attendant, M. Seznec, avec vous, le communiqué final de l'OTAN a évoqué tout de même une note d'espoir pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance. Est-ce qu'on peut dire que ce sont encore des promesses?
Oui, je crois quand même que c'est encore des promesses. Je vois mal l'Ukraine rentrer rapidement dans l'OTAN parce que la Russie vraiment voit ça comme étant un risque énorme pour elle-même. Donc je pense que la Russie va essayer de montrer que c'était une chose très difficile. Et l'Ukraine va avoir beaucoup de mal à convaincre tout le monde en Europe que la Russie ne fera rien militairement contre les autres pays de l'OTAN. Et on a vraiment une chance si l'Ukraine rentre dans la dans l'OTAN maintenant, ça pourrait vraiment faire approcher une guerre européenne beaucoup plus rapidement. Ça, ce serait très, très, très grave, bien sûr.
Monsieur Chevalereau, qui nous revient finalement, on parlait de cette condition, la guerre, qui est la fin de la guerre, qui est l'une des principales conditions posées par l'OTAN pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance. Oui, merci de nous rejoindre. Est-ce qu'on peut comprendre précisément cet article 5 qui est l'une des principales conditions à l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance ?
Oui, si vous m'entendez, l'OTAN est une organisation de défense collective. Et cet article 5, cet article 5 du traité de Washington, c'est la théorie de solidarité entre les pays de l'Alliance Atlantique. Et ce article stipule que toute attaque contre un pays membre de l'Alliance est considérée comme étant une attaque contre l'ensemble des pays membres de l'Alliance. Donc on voit bien qu'on a là, effectivement, comme le disait M. Seznek, un risque immédiat. Dès que l'Ukraine, imaginons que l'Ukraine soit par exemple en ce moment membre de l'Alliance, l'Alliance entrerait quasiment automatiquement en guerre contre la Russie. Donc ça, c'est une situation dont beaucoup de pays membres de l'Alliance ne veulent pas. Il est évident que le futur de l'Ukraine est dans l'Alliance. Les conditions ne sont pas précises.
La liaison n'est pas très très bonne avec M. Chevalereau. On reste avec vous, M. Seznek. Peut-on comprendre pourquoi, au prime abord, l'Ukraine désire autant adhérer à l'OTAN ? Quels sont les avantages et inconvénients de cette potentielle adhésion de l'Ukraine dans l'Alliance ?
Bien sûr, l'avantage, c'est que ça donne l'impression que l'OTAN viendrait automatiquement en guerre contre la Russie. Si la guerre continuait avec la Russie en Ukraine, et ce serait extrêmement dangereux pour la Russie. Donc je pense qu'effectivement, l'avantage, c'est une sorte d'avantage un peu de poker, si vous voulez, parce que ça va, l'idée de l'Ukraine, c'est que ça forcerait la main de la Russie à essayer de trouver un accord sur la fin de la guerre, parce que même la Russie ne veut pas vraiment la guerre contre toute l'Europe et les États-Unis. Ce serait vraiment la fin du monde. C'est une sorte de poker, si vous voulez, qui se passe. Et je ne sais pas si ça réussira, parce que, bien sûr, la Russie est tout à fait au courant de ça et contre l'idée même de l'OTAN dans la région.
La Russie qui a mis en garde l'OTAN contre l'adhésion de l'Ukraine. Quelles sont ses principales préoccupations, les préoccupations de la Russie concernant cette expansion de l'OTAN, notamment dans la région, avec l'entrée maintenant, on l'a dit, de la Suède et de la Finlande aussi?
Écoutez, ça a été le problème fondamental de M. Poutine. Hein. Il est certain que président Poutine est assez paranoïde, paranoïaque sur cette affaire, mais même les paranoïaques ont des ennemis, si vous voulez. Donc, il a peur qu'avec l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, il sera complètement pris sur toute sa frontière entière, y compris la Turquie, bien sûr, mais jusqu'au nord, en Finlande, il sera pris il serait coincé, si vous voulez, par l'OTAN. Donc ça lui fait très peur, et ça a toujours été le problème fondamental. Il a dit qu'il rentrait en Ukraine, que la Russie essayait de réintégrer l'Ukraine de façon à arrêter l'expansion de l'OTAN dans la région. Donc tout ce qu'on voit maintenant, tout ce qu'il voit maintenant, c'est que l'OTAN devient de plus en plus fort. Et il a fait une perte énorme avec la Finlande et la Suède qui étaient séparées jusqu'ici. Alors si en plus l'Ukraine vient, là ça devient vraiment trop dangereux pour la Russie.
Nos téléspectateurs se sont prononcés également sur ce sommet de l'OTAN. On va écouter quelques réactions. Il y a Omar Selin, Kofi d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous dit qu'il faut plutôt sursoir, selon lui, à cette question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance, si nous voulons préserver l'humanité d'une troisième guerre mondiale plus meurtrière. Du côté de N'Djamena, Arcéduc Théodore, lui, nous dit que les dirigeants de l'OTAN prônent l'adhésion de l'Ukraine à cette organisation pour contrôler la Russie, pays voisin de l'Ukraine. On risquerait, selon lui, d'évoluer de guerre en guerre sous le complot des grandes puissances qui s'affronteront en sous-marin. Alphonse Mbouaki de Kinshasa trouve une certaine duplicité de la Turquie qui fait partie de l'OTAN, mais en même temps, selon lui, qui est un allié militaire de Moscou, ennemi de l'OTAN. On revient juste après la pause pour vos commentaires.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Si vous nous rejoignez Washington Forum sur VOA Afrique, nous revenons sur le sommet de l'OTAN avec nos invités Patrick Chevalreau, vice-amiral et vice-président de l'Institut Open Diplomacy, et Jean-François Seznec, économiste, analyste politique à l'Atlantic Council. Avant la pause, vous avez suivi quelques-unes des réactions de nos téléspectateurs qui pensent pour la plupart que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN provoquera une troisième guerre mondiale. J'aimerais bien connaître votre avis sur la question, M. Chevalreau.
Oui, alors évidemment, je dis évidemment, ce n'est pas mon opinion du tout, et ce n'est pas l'opinion de l'écrasante majorité des Européens. Être membre de l'OTAN, c'est au contraire une garantie de sécurité quasi absolue. Il faut regarder dans l'histoire que personne n'a osé attaquer un pays membre de l'OTAN depuis la création de l'OTAN. Donc ça, c'est un gage de crédibilité et d'efficacité. Donc je crois qu'il faut pas prêter le flanc à la propagande et à la désinformation de la Russie, qui elle, pour le coup, a perdu énormément de crédibilité depuis le début de cette guerre.
Mais est-ce qu'on peut dire que l'adhésion de l'Ukraine, les menaces sont claires pour la Russie ?
Non, l'OTAN n'a jamais bombardé Moscou. L'OTAN est une alliance défensive. J'ai passé moi-même beaucoup d'années à travailler avec cette organisation, à travailler dans cette organisation. Je la connais extrêmement bien. C'est une organisation politico-militaire extrêmement sérieuse, capable de se défendre, mais en aucun cas c'est une organisation d'agression, à la différence de ce qu'essaie de nous faire croire le Kremlin depuis des années, en fait.
Un commentaire, M. Seznec ?
Non, M. Chevalreau a tout à fait raison. L'OTAN n'est certainement pas une alliance d'attaque, c'est une alliance de défense. Le problème, bien sûr, c'est que la Russie essaye de la faire comme de la mettre comme une alliance d'attaque et en profiter, si vous voulez, pour obtenir ce que Moscou veut obtenir. Et ça, c'est grave parce que ça peut toujours sortir de la route, si vous voulez. Ça peut toujours, on ne sait pas où ça peut nous amener.
Outre l'adhésion de l'Ukraine, on a bien parlé de l'entrée de la Suède, qui était aussi abordée lors de ce sommet. La Turquie qui a donné son accord, on le disait, son accord de principe pour la candidature de la Suède à l'OTAN. Jean-François Seznec, quel impact l'entrée de la Suède pourrait-elle avoir sur l'expansion de l'OTAN ?
Écoutez, c'est très important parce que d'après ce que j'ai entendu dire, l'armée suédoise, et l'amiral pourra nous en parler beaucoup mieux, mais l'armée suédoise est excellente et bien entraînée, et en plus c'est le dernier morceau du puzzle, si vous voulez, sur le côté ouest de la Russie qui protège vraiment les flancs de l'Europe de l'Ouest, de la France, de l'Allemagne. Donc c'est très, à mon avis, c'est très important.
Monsieur Chevalereau.
Oui, mais moi je suis d'accord avec Monsieur Selznick. Et puis je rajouterais le fait que c'est pas, je n'aime pas le terme expansion de l'OTAN, comme si c'était une espèce de pieuvre qui avalait les États les uns après les autres. On parle plutôt d'élargissement de l'OTAN. Et il faut bien voir que la Suède, comme la Finlande, comme tous les pays qui ont précédé ces deux pays en matière d'élargissement, sont volontaires. C'est-à-dire que c'est la classe politique de ces pays et c'est la population de ces pays, très majoritairement, qui demande à adhérer à l'OTAN. Et finalement, l'invasion, l'attaque brutale de Poutine sur l'Ukraine le 24 février 2022 a fait basculer les opinions publiques de la Finlande et de la Suède, qui étaient des pays non alignés, on va dire, des pays neutres, depuis des années, depuis des décennies. C'était vraiment le marqueur de leur politique étrangère. Et bien d'un seul coup, ces opinions publiques ont basculé pour vouloir aller se mettre dans cette communauté de défense collective qu'est l'OTAN.
Mais qu'en sera-t-il de l'équilibre des pouvoirs en Europe du Nord avec l'élargissement, pour reprendre votre terme, de l'élargissement de l'OTAN ?
Alors, en termes d'équilibre des pouvoirs dans l'OTAN, il faut bien voir que chaque pays a une voix, hein, et qu'il n'y a pas de pays qui ait une voix supérieure à une autre. Voilà, l'OTAN est une organisation qui fonctionne par consensus. Donc si vous prenez le communiqué, la déclaration à l'issue du sommet de Vilnius, elle est intéressante à lire, hein, il y a 90 paragraphes, elle est extrêmement, chaque mot est pesé, chaque virgule est pesée. Donc chaque pays a sa propre voix. Alors bien évidemment dans l'OTAN, il y a des pays plus puissants, il y a notamment un pays plus puissant qui est les États-Unis. Mais autour de la table, eh bien, s'il y a un pays qui n'est pas d'accord, et on l'a vu avec la Turquie, hein, qui a traîné dans son accord pour l'entrée de la Suède, on voit bien que ça peut bloquer une décision.
Pour parler de la Turquie, justement, il y a un de nos téléspectateurs qui parlait de duplicité de la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, mais qui en même temps est un allié militaire de Moscou. Est-ce un terme avec lequel vous êtes d'accord, M. Selznick ?
Ben écoutez, duplicité, c'est un peu fort, parce que la Turquie, bien sûr, prend soin de ses avantages à elle-même, et le président Erdogan est un maître de faire ça. Il est extraordinaire pour obtenir ce qu'il veut obtenir. Je pense qu'il va essayer encore d'obtenir d'autres choses, parce que c'est pas encore tout à fait fini, cette affaire. Il veut être sûr que les Américains vont lui donner ses F-16, il veut avoir aussi plus d'assurance de l'Europe pour aider l'économie turque en ce moment. Donc il a très bien joué ses cartes, si vous voulez. Mais donc c'est pas forcément duplicite, mais c'est pas forcément non plus, comme on dit en anglais, straightforward. Hein, c'est pas tout à fait direct, si vous voulez.
Mais l'adhésion de la Suède est désormais chose acquise.
Pas forcément.
Pas forcément, M. Chevalereau.
Moi, je considère qu'elle est quasiment acquise, parce que aujourd'hui, on a le dernier obstacle, finalement, c'est la ratification par le Parlement turc du protocole d'adhésion de la Suède. Dès lors que le grand vizir, M. Erdogan, donne son feu vert et communique sur de manière extrêmement positive, hein, c'est ce qu'il a fait à Vilnius, sur l'adhésion de la Suède, je ne vois pas le Parlement turc opposé à partir de maintenant à l'entrée de la Suède. Alors par contre, ça risque de durer un petit peu. On parle d'octobre d'octobre 2023 pour cette ratification.
Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur les acquis de l'Ukraine à la fin de ce sommet, à la, dans, la, dans le communiqué final, qui on parlera de note d'espoir, Joe Biden qui précise que l'avenir de l'Ukraine, c'est dans l'OTAN. Également le président polonais qui estime que la décision prise lors du sommet rapproche l'Ukraine de l'OTAN malgré l'absence de calendrier. On se demande bien quelle serait la prochaine étape, sachant que la guerre est toujours en cours. M. Selznick.
Écoutez, peut-être une seule chose j'aimerais dire avant de passer sur ce sujet, c'est le fait que la Hongrie n'est pas toujours d'accord sur cette affaire. Et la Hongrie voudrait peut-être ralentir l'accès de l'Ukraine à l'OTAN, de la Suède à l'OTAN. Oui, de la Suède pour obtenir plus d'avantages ou même peut-être même de façon indirecte aider la Russie. Donc ça, c'est pas forcément très bien. Donc peut-être que le reste de la question, peut-être M. Chevalereau peut prendre la suite si vous voulez.
Je vous laisse la parole alors, M. Chevalereau.
Oui, alors votre question c'était qu'est-ce qu'a obtenu l'Ukraine.
Voilà, c'est sur les acquis, voilà, exactement.
Quelle pourrait être la prochaine étape? Moi, si vous voulez, j'observe qu'entre la première fois qu'on a parlé du futur de l'Ukraine dans l'OTAN, c'était à Bucarest en 2008, et c'était un langage extrêmement vague. Déjà, quand on regarde aujourd'hui ce que l'Ukraine a obtenu, il y a manifestement eu un pas vers la rejointe de l'OTAN.
Les tâtonnements dont parlait Zelensky existaient bien avant l'invasion de l'Ukraine, si on comprend bien.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, cette espèce d'ambiguïté, cette espèce de flou, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Poutine est passé à l'acte, en voyant quelque chose d'extrêmement vague, une promesse à très long terme, qui lui a peut-être dit, c'est le moment de passer à l'acte. Voilà. Non, il y a sur le communiqué de Vilnius, qui est important, on a notamment la création d'un conseil OTAN-Ukraine. Ça, c'est une structure permanente qui va être mise en place à Bruxelles, au siège de l'OTAN, avec un ambassadeur d'Ukraine auprès de l'OTAN. Il y aura des réunions des chefs d'État. C'est un organe de consultation, de prise de décision, d'échange d'informations. Donc on voit bien que on n'a pas encore l'invitation de l'Ukraine à intégrer l'OTAN, mais on s'en rapproche. Voilà. Donc c'est je dirais qu'il faut voir le vide à moitié plein. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois.
Et l'accent sera toujours mis sur le soutien militaire, comme l'ont précisé les dirigeants de l'OTAN. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ambiguïté, l'Allemagne et les États-Unis qui craignent un conflit direct avec la Russie, mais qui continuent derrière de soutenir l'Ukraine contre la Russie? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ambiguïté, M. Selznick?
Oui, bien sûr, c'est une ambiguïté un peu voulue, parce qu'il est certain que l'aide allemande, l'aide américaine, française et autres ne changera absolument pas et va même augmenter. Donc, dans un sens, on essaie de dire que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais fait partie de l'OTAN. Donc, c'est une ambiguïté qui est importante et qui peut-être essaye de faire pousser la Russie à négocier un petit peu une fin de cette guerre.
Monsieur Chevalereau, votre avis avant de clore ce débat?
Oui, c'est une ambiguïté, c'est une semi-ambiguïté en fait. Je dirais que c'est un jeu de rôle. Oui, c'est un jeu de rôle, on va dire. Il est évident que Zelensky ne pouvait pas, lors de ce sommet, obtenir une adhésion à l'OTAN, obtenir un calendrier extrêmement précis, puisqu'on ne sait pas comment va tourner cette guerre. Par contre, effectivement, il y a les aides bilatérales qui sont même renforcées. Il y a eu une annonce de la part de l'Allemagne qui va augmenter sa participation en Lituanie, qui va passer d'un bataillon à une brigade. Donc c'est une augmentation significative des effectifs. Et puis il y a eu l'annonce du président Macron qui va donner à l'Ukraine des missiles longue portée, extrêmement précis. Ce missile s'appelle le Scalp, il est aéroporté. Et il permet de taper les Russes dans la profondeur.
Je vous remercie, M. Chevalereau, et vous également, M. Jean. Jean-François Seznec. C'est la fin de ce débat Washington Forum. Alexandrine Polonio était à la présentation et merci à vous qui nous avez suivis à travers nos médias partenaires sur le continent Washington Forum. Le rendez-vous c'est tous les jeudis à 19h en temps universel sur VOA Afrique et sur voafrique.com, rediffusion samedi et dimanche.